Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, 22 mars 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer des programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et aussi mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président a inauguré l'ambassadeur d'Indonésie en République fédérale du Nigeria. L'Indonésie et la Tunisie construisent l'image de l'islam qui est Rahmatan Lil Alamin. La ministre des Affaires étrangères a ouvert le forum Indonésie-Pacifique du Sud. Le Parlement demande au gouvernement de mettre fin aux différends sur les permis à huile avec l'Union européenne. Le tourisme fait de la base de développement des infrastructures à Sabang, Aceh. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré jeudi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie en République fédérale du Nigeria, Usra Hendra Harahap, au Palais d'État, Jakarta. La position de l'ambassadeur d'Indonésie auprès de la République fédérale du Nigeria, basée à Abuja, qui est également l'ambassadeur de plusieurs autres pays d'Afrique, tels que la République du Burkina Faso, la République du Gabon, la République du Ghana, la République du Cameroun, la République du Congo, la République du Libéria, la République du Niger et Togo. Auparavant, à la même place, le président Joko Widodo a assisté au serment de deux juges constitutionnels, à savoir Aswanto et Wahidin Adam. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, M. A.M. Fahir, a déclaré que le processus démocratique en Indonésie et en Tunisie avait des similitudes. Il a dit cette question à la commémoration de la fête de l'indépendance de la Tunisie, mardi 20 mars à Jakarta. Cette année, les deux pays organisent des élections générales. M. Fahir a estimé que l'Indonésie et la Tunisie tentent de maintenir le processus démocratique, l'unité et l'harmonie dans la société. Politiquement, l'Indonésie et la Tunisie ont des relations étroites, notamment de faire avancer les intérêts du pays en développement et aussi liés aux intérêts islamiques qui se reflètent dans la compréhension commune et la position des deux pays sur diverses questions.
Indonesia and Tunisia put endeavors to build the positive image of Islam.
L'Indonésie et la Tunisie s'efforcent de construire une image positive de l'islam comme une religion de Rahmatan Lil Alamin, esprit de paix modéré et compatible avec les valeurs démocratiques. Selon M. A.M. Fahir, jusqu'à présent, l'Indonésie et la Tunisie ont des relations solides pour avancer la coopération bilatérale. La commission conjointe, l'Indonésie et la Tunisie, a tenu 10 réunions l'année dernière. La même année, le Forum de la démocratie de Bali du chapitre de Tunis s'est tenu pour progresser les valeurs démocratiques. C'était le premier forum sur la démocratie de Bali à se tenir en dehors de Bali. Dans le domaine des contacts entre personnes, les deux pays ont échangé des bourses, d'études et des chances d'étudiants. Dans le domaine de l'économie et de commerce, Il existe encore des possibilités qui peuvent être élargies. L'année dernière, le commerce bilatéral des deux pays a atteint 81,60 millions de dollars américains. Il doit avoir une percée et de l'innovation pour améliorer les relations commerciales. Il espère que cette année, l'accord sur les préférences commerciales indonésiennes et tunisiennes pourra être terminé. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a ouvert jeudi une série d'activités pour le Forum Indonésie-Pacifique du Sud au ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta. 15 pays et régions du Pacifique du Sud ont assisté à la réunion du Forum Indonésie-Pacifique du Sud sur le thème « Notre avenir, océan partagé, prospérité partagée ». Selon Mme Retno Marsudi, cette réunion était très historique parce que l'Indonésie a organisé pour la première fois un forum avec le Pacifique du Sud. La série d'activités du Forum Indonésie-Pacifique du Sud comprenait entre autres des réunions entre des représentants du gouvernement indonésien et des pays du Pacifique du Sud sur le thème de la connectivité et de l'économie marine. Dans ce forum, il existe également des activités l'engagement des entreprises qui se déroule en parallèle entre les hommes d'affaires indonésiens et du Pacifique du Sud. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président de la Commission 4 du Parlement indonésien, M. Edi Prabowo, a encouragé le gouvernement à mettre fin immédiatement le différend sur les exportations de palmiers à huile avec l'Union européenne en continuant de mener une diplomatie active dans chaque pays de la région. Edi a déclaré récemment que de nombreux autres pays utilisaient l'Indonésie comme marché, mais comme si l'Indonésie n'avait aucun avantage. Il a espéré que le pays serait présent sous la forme de l'approche politique ou d'efforts diplomatiques visant à démontrer la souveraineté de l'État indonésien dans le domaine de l'économie du commerce mondial. Cependant, le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, lors de réunion au siège du ministre des Affaires étrangères sur la discrimination de l'égard de l'huile de palme tenue à Jakarta, les produits à base d'huile de palme sont un produit très important pour l'Indonésie, notamment pour lutter contre la pauvreté et créer des emplois pour des millions d'Indonésiens. Le maire de Sabang dans la province Aceh, M. Nazaruddin, a déclaré que le développement des infrastructures en cours sur l'île la plus à l'ouest de l'Indonésie était basé sur le tourisme afin de réaliser l'accélération économique de la communauté. Le maire de Sabang, M. Nazaruddin, a déclaré vendredi que la ville de Sabang possédait des ressources sous la forme de l'agence d'exploitation de la zone de Sabang qui n'est pas possédée par les villes ou d'autres districts de la province d'Aceh. Par conséquent, il est temps pour la municipalité de Sabang et ses parties liées pour accélérer rapidement le développement dans le secteur stratégique du tourisme national que d'autres districts. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le gouvernement indonésien divulgue les fonds du district. Après le fonds de village, le gouvernement prévoit d'élever le fonds de district. Le discours sur l'allocation de ce fonds apparaît lors de la réunion nationale des chefs de district à Jakarta mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a expliqué que sa partie était en train de traiter le budget proposé pour le fonds de district. Selon lui, ce budget est différent des fonds de village et de sous-district budgétés de la PBN. Les fonds de sous-district seront budgétisés à partir de la PBD de chaque région. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, dans une même occasion, a donné un signal positif à la proposition du ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'elle examinerait l'allocation de fonds pour le sous-district Par conséquent, elle a admis qu'elle discuterait avec le ministère de l'Intérieur pour choisir l'instrument le plus efficace à utiliser comme budget de sous-district. Si cela est réalisé, il est prévu de verser le fonds de sous-district afin de créer un équilibre de développement. Naturellement, le village et le district ont reçu des fonds de budget de l'État, APBN. À la fin de l'année dernière, les politiques gouvernementales relatives aux fonds de sous-district étaient polémiques. Même si la politique du fonds de sous-district est bonne, il y a une polémique, car les fonds ont été distribués avant l'élection présidentielle. Par conséquent, il a estimé que cette politique bénéficie le titulaire du poste lors de l'élection présidentielle 2019. Ce discours du fonds de sous-district, bien que cela ne soit que le discours, il y a toujours une polémique, car il est soulevé avant les élections générales d'avril 2019. Pour écarter cette allégation, Cahyo a déclaré qu'il avait approché la ministre des Finances, Sri Mulyani, sur les fonds de sous-district pendant les deux dernières années. En voyant la déclaration de Cahyo, il semble que ce discours n'apparaisse pas soudainement dans le contexte de l'élection. La question cruciale que nous devrions nous poser à propos de ce discours est de savoir quelle est l'utilité de ce fonds de district lorsqu'il est réalisé. Conformément au règlement gouvernemental numéro 19-2008 concernant le district, le gouvernement du district s'occupe non seulement de superviser la gouvernance du village, mais aussi de diverses activités liées à l'administration de la population et aux licences, ainsi que des services de base dans les domaines suivants: l'ordre, la sécurité, l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la communauté et des efforts concrets pour prospérer la société. Vu le grand rôle du délégué au gouvernement du district, un soutien financier suffisant est bien sûr nécessaire. Jusqu'à présent, le gouvernement du district a reçu un financement du budget régional. N'est pas suffisant pour qu'il y ait un discours sur l'existence d'un fonds de district. Quelle est la fonction du budget du district? Pour répondre à ces questions, il faut vraiment une étude approfondie du gouvernement. L'efficacité de ce fonds, si elle est réalisée, doit être étudiée en profondeur, même si la proposition du fonds de district est un effort pour accélérer le développement et le service public au niveau inférieur. Le gouvernement n'a pas besoin de décider cette proposition. Outre de la nécessité d'étude approfondie nécessitant suffisamment de temps, il faut aussi éviter les polémiques avant les élections 2019. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Cher ami, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 22 mars. Le 22 mars 1945, la Ligue arabe a été formée au Caire. La Ligue arabe a été formée le 22 mars 1945 par 6 pays, à savoir l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite et la Syrie. Le Yémen est devenu membre le 5 mai 1945. La Ligue compte actuellement 22 membres, mais la participation syrienne est suspendue depuis novembre 2011, en conséquence de l'oppression du gouvernement pendant la guerre civile syrienne. L'objectif de la Ligue arabe en 1945 était de renforcer et de coordonner les programmes politiques, culturels, économiques et sociaux de ses membres et de régler les différends entre eux et des tiers. Le 22 mars 1946, la Jordanie était indépendante. Le 22 mars 1946, la Jordanie obtint son indépendance. Au début des conquêtes musulmanes, la Jordanie est devenue une partie du califat musulman. Au milieu du 6e siècle, la Jordanie était gouvernée par l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, et l'effondrement de l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne prit le contrôle de la Jordanie, de l'Irak et de la Palestine. Le 22 mars 1946, la Grande-Bretagne a signé un traité sur la cession de l'indépendance de la Jordanie et la Jordanie devenait un royaume. Le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau. La Journée mondiale de l'eau est une commémoration destinée aux efforts visant à attirer l'attention du public sur l'importance de l'eau potable et aux efforts de sensibilisation à la gestion durable des sources d'eau potable. La Journée mondiale de l'eau est célébrée tous les 22 mars. Cette initiative d'alerte a été annoncée à la 47e Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 1992 à Rio de Janeiro, Brésil. Chaque année, la Journée mondiale de l'eau a un thème spécifique. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awamu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit, membiru indraku, susah payahku melepasmu. Menjamahku tanpa ragamu di sampingku. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa rahmu lagi. Menuntunku lagi.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Troublé, chantée par 420. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, écoutons maintenant notre rubrique Mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie offre des investissements aux entrepreneurs indiens. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a invité les entrepreneurs indiens à accroître leurs investissements dans divers secteurs et régions en Indonésie. Luhut Panjaitan, lors de son discours au Forum indonésien sur les infrastructures à Jakarta, a déclaré mardi qu'il avait encouragé la société à explorer des meilleures opportunités de développement de leurs affaires en Indonésie. Selon lui, les entrepreneurs indiens peuvent tirer parti de nombreuses opportunités, en particulier dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et des technologies de l'information. Le deuxième forum entre Indonésie sur les infrastructures s'est tenu en collaboration avec le ministère de la Coordination des Affaires maritimes. Plus de 30 présidents directeurs généraux du secteur des infrastructures en Nantes ont participé au forum. 75 entreprises indonésiennes, entre autres Pertamina, Angkasa Pura, Garuda, Pelindo et Jasa Marga, ont également pris part au forum. Le gouverneur de la province d'Aceh, Nova Iriansyah, le vice-ministre indien des Affaires étrangères, Agita Sharma, et l'ambassadeur de l'Inde en Indonésie, Pradeep Karawat, étaient également présents. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien s'efforcerait également de répondre aux besoins des entreprises indiennes en matière d'investissement en Indonésie. Luhut Panjaitan a également déclaré que les investisseurs étrangers devaient également se conformer à la réglementation en vigueur en Indonésie. Il a exprimé son souhait que les investissements qui entrent dans le pays soient également répartis de manière égale, c'est-à-dire conforme au désir de développement centré sur l'Indonésie. Il a expliqué qu'actuellement, le gouvernement indonésien priorise au développement des ressources humaines. Pendant ce temps, le vice-ministre indien des Affaires étrangères, Gita Sharma, estime que ce forum peut créer des liaisons entre le monde des affaires des deux pays et accroître la participation au développement des infrastructures. Il a ajouté que le manque d'infrastructures pourrait être résolu plus rapidement si le monde des affaires des deux pays coopérait plus étroitement. Cependant, l'ambassadeur d'Indonésie en Indonésie, Pradeep Karawat, a déclaré que l'Inde et l'Indonésie présentaient de nombreuses similitudes, à savoir des pays à forte économie et à forte jeune population. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu tak pernah melihatku. Oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Namun kuasaku.
Ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku.
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
Voice of Indonesia.
C'était une chanson intitulée Être à moi, chantée par Marcel et Ralin Shah. Chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel intitulé Umbul Pengging. Boyolali est l'un des régions dans la province de Java Central. La région, surnommée la ville du lait, offre une variété de beautés naturelles qui peuvent devenir une destination touristique. L'un des piliers du tourisme à Boyolali est Umbul, ou en français, la source d'eau. La source d'eau offre la fraîcheur d'eau qui est utilisée comme un bain naturel. Parmi les nombreux Umbul, ou la source d'eau à Boyolali, l'un des plus célèbres est Umbul Pengging. Contrairement à d'autres sources, Umbul Pengging est nuancé par le royaume du passé. Cette piscine se trouve dans le village de Dukuh, le district de Banyu Dono, la région de Boyolali, Java Central. Depuis la ville de Boyolali, Umbul Pengging est située à environ 14 km et environ 20 minutes. Umbul Pengging possède trois piscines. La première piscine, la plus proche de l'aire de stationnement du véhicule, est Umbul Temanten. Cette piscine a un mur d'environ 24 mètres de large, 33 mètres de long, avec des profondeurs successives de 0,70 mètres, 1,40 mètres et 1,80 mètres. La piscine suivante est Umbul Duda, située derrière Umbul Temanten. Umbul Duda est la plus petite piscine parmi les trois autres piscines de la zone de Umbul Pengging. Le troisième bain est Umbul Ngabean, qui se trouve dans la partie orientale de la zone Umbul Pengging. L'architecture de Umbul Ngabean a des nuances royales. En se plongeant dans cette piscine, on a l'impression d'être au milieu d'un palais royal du passé. Il y a encore une piscine, mais ce n'est pas naturel, mais artificiel. Elle s'appelle Umbul Anak, car il est destiné aux enfants.
Thank you.
Pour profiter de la fraîcheur de l'eau de Umbul Pengging, vous devez payer un billet d'entrée de 3500 rupiah pour la journée normale et 4500 rupiah en vacances. Le tarif de stationnement ne sont que 1500 rupiah par la moto et 2500 rupiah pour la voiture. Vous devez également payer à nouveau pour vous baigner dans une piscine, mais le tarif est très bon marché, à savoir 1500 rupiah pour Umbul Temanten et Duda, tandis que le prix d'entrée pour Umbul Ngabian selembong 2500 rupiah et Umbul Anak 3500 rupiah. L'objet touristique Umbul Pengging dispose également d'installations complètes telles que parking, toilette, salle de prière, stand de nourriture. Et à Umbul Pengging, vous pouvez nager, pêcher à Win-Win qui se trouve au sud de Umbul Ngabian. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pelangi, ku menari menyambut bebas. kebebasan hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah. Kerjamu
Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Passer à autre chose » chantée par Abdul. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter une rubrique L'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers fidèles auditeurs et auditrices. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Garuda Indonesia, l'une des compagnies aériennes les plus propres au monde. La version de Skytrack. Restez à l'écoute avec nous sur www.voinews.id. La compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia est l'une des 20 compagnies aériennes les plus propres au monde en 2018, la version de Skytrack. Skytrack World Airline Awards a décerné le prix de la meilleure propriété de la cabine des compagnies aériennes à 30 compagnies aériennes mondiales. Garuda Indonesia place au 16e rang. Cité par CNN Travel, le classement de Garuda Indonesia est supérieur à celui de la compagnie aérienne basée à l'aéroport international de Dubaï, Emirates, qui place le 19e rang. Tandis que ANA, All Nippon Airways, du Japon, était nommée comme compagnie aérienne la plus propre au monde par Skytrack World Airlines Award 2018. Skytrack considère que la propriété est l'une des choses les plus importantes pour les voyageurs. Skytrack est une agence britannique d'évaluation de vol. Skytrack a décerné un prix qui avait été annoncé la nuit des Skytrack World Airline Awards 2018. L'enquête a été réalisée auprès des lecteurs par méthode. Les passagers sont invités à fournir une évaluation de la propriété de la cabine de l'avion, couvrant la zone des sièges, des tables, des tapis, des panneaux de la cabine et des toilettes. Ce prix est certainement important pour le voyageur, compte tenu les aéronefs sont accessibles à de nombreuses personnes en bonne santé ou atteintes de maladies. Le transfert de germes et de bactéries est très possible dans l'avion. La compagnie aérienne principale du Japon, All Nippon Airways, ou ANA, est la plus propre des compagnies aériennes au monde. En vertu de l'ANA, EVA Air de Taïwan est devenue la deuxième compagnie aérienne au monde la plus propre, suivie par Asian Airlines de Corée du Sud à la troisième place. Singapore Airlines et Japan Airlines entrent consécutivement dans le top 5 aux 4e et 5e places. La compagnie aérienne d'Emirates, Etihad Airways et KLM Royal Dutch Airlines venaient en 6e position après Garuda Indonesia. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
bercanda, jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah, jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju, untuk jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya, bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku, satu hal yang kau harus tahu. Pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya.
Kau selalu marah bila terlalu lama kau menghias wajahku.
Kau selalu memuja cantikku waktu baru bangun dari tidurku.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju, untuk jadikan kamu pendampingku.
Selama-lamanya, lama-lamanya, bahagia seperti selama.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure, intitulé « Toujours comme ça », chanté par Bianca et Dimas. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Dans cette édition, le magazine musical va présenter la chanson intitulée Sapu Tangan Babuncu Ampat. Même si les paroles de la chanson sont courtes, la chanson intitulée Sapu Tangan Babuncu Ampat a une signification très profonde. Cette chanson de Kalimantan du Sud est pleine de messages moraux. En français, sapu tangan babuncu empat signifie un mouchoir à quatre pointes. L'un des paroles est luka nang di tangan kawadi babat, luka nang di hati hancur sekali. Ce qui signifie qu'une plaie à la main ou une plaie qui saigne puisse être bandée, mais la plaie au cœur est difficile à guérir. C'est-à-dire, les gens doivent faire attention à ne pas blesser les autres. Cependant, si une partie est blessée, ne vous vengez pas. Les maux de cœur doivent être éliminés, car il vous alourdiront toute votre vie. Les paroles de la chanson Saputangan Babuncu Ampat nous rappelaient de s'aimer et de se pardonner. Cette chanson a la forme de vieilles paroles de poésie sous forme de pantons. Comme la plupart des anciens poèmes, Panton est souvent fait pour transmettre certains messages. Bon serviteur, voici donc la chanson de Lusikus Endang en titre Saputangan Babuncu Ampat de Kalimantan du Sud. Bonne écoute.
Of Indonesia.
Thank you.
sudah batali. Mai padinya kada badaya badanku. Bersaksi marangkai janji. Badapat batamu sudah batali. Tinggal basara lawan kuasa ilahi.
Empat nih pasaan di pata.
Chers amis, de quatre coins du monde, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.